Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'il ne souffle pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. « Ne touchez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Aser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issacar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. On va s'arrêter là. Lorsque ce sixième sceau est ouvert, on s'attend à ce que, dans la foulée, le septième sceau soit aussi ouvert. Mais là, c'est un peu un interlude. C'est un peu une pause dans ce qui est en train de se passer. Encore une fois, c'est... Jean a été saisi en esprit, et il est dans le trône, dans la salle du trône céleste, et il peut voir ce qui se passe dans le trône et voir en même temps ce qui se passe sur la terre. Et là, il a une vision de quatre anges debout aux quatre coins de la terre, qui retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne souffle pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Quelque part, on se dit, bof, c'est pas vraiment une catastrophe qui est pas devant. On sait que les tornades, les ouragans, les tempêtes tropicales, etc., c'est ça qui est vraiment la catastrophe. Mais si en même temps, on imagine qu'il n'y ait plus du tout de vent, ça veut dire plus de changement d'air, plus une pollution qui s'accumule, la chaleur qui monte, encore une fois, c'est des phénomènes dont on ne prend pas la juste valeur, dont on ne mesure pas la juste valeur tant qu'il n'y a pas un blocage. Je vous avais demandé à quel vent vous vous compareriez. Il y en a qui ont répondu. J'ai aimé Catherine de Casanova. Elle a pensé qu'elle était le...
Libetio et le vent grec,
c'est deux vents qui souffle sur la Corse. D'autres réponses?
Le zéphyr.
C'est poétique ça. Oui. Santa Anna là-bas, non? Did you find a wind you could compare yourself to? Non.
C'était un
bande des
mais je sais pas.
C'était.
Ça pour le contraire.
Oui. C'était une anecdote. C'était anecdotique, c'est pas. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est question des quatre coins de la terre. Et c'est difficile à croire, mais souvent les ennemis de la parole de Dieu, ceux qui veulent démonter, attaquer la véracité, la pertinence de la Bible, vont tomber sur des passages comme ça et dire quatre coins de la terre, regardez, la Bible n'est vraiment pas scientifique, ils pensaient que la terre était plate. C'était comme un grand rectangle avec quatre coins. Mais bien sûr que c'est une façon de parler. Le mot coin, c'est en fait le mot angle. Gonio, comme la radiogoniométrie, c'est les quatre directions.
Les quatre points cardinaux.
Les quatre points cardinaux, tout à fait. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, souvent, les critiques bibliques, c'est pas sur les passages un peu difficiles pour les chrétiens. Il y a des passages où on a du mal à trouver vraiment le sens de tel ou tel verset. On dit il y a plusieurs options, peut-être ça. Mais eux, quand ils critiquent, c'est des trucs qu'on peut leur... Un enfant qui va à l'école du dimanche peut leur dire, mais attendez, c'est les quatre, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc, il y a quatre anges qui sont prêts à retenir, qui sont prêts à retenir le vent, qui retiennent le vent. Et il y a un autre ange, c'est certains pensent que peut-être c'est un ange comme Jésus, un autre, mais c'est, en grec, il y a deux mots pour autre. Il y a autre de la même nature et autre d'une nature différente. Et là, c'est un autre ange de même nature, donc ce n'est pas Jésus. On sait par en étudiant hébreu que Jésus est de loin supérieur aux anges. Ça, si vous voulez aller voir ça, c'est dans le début de la lettre aux Hébreux. Il y a un autre ange qui monte du soleil, du côté du soleil levant, donc de l'est, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Alors, qu'est-ce que c'était qu'un sceau? C'était un objet avec lequel on pouvait faire une empreinte dans la cire, dans de l'argile, pour signifier l'identité, la propriété, l'appartenance et aussi la protection.
Signature.
C'était comme une signature, comme un tampon. Aujourd'hui encore en France, l'administration aime bien les coups de tampon, et plus il y en a et plus c'est garanti, quoi.
C'est officiel.
Plus c'est officiel, voilà. Et l'ange demande de ne pas toucher à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant qu'il n'ait pu marquer du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc il va y avoir un groupe, qui sont des serviteurs de Dieu, au verset 4, de 144 000 personnes. Alors c'est intéressant parce que vous avez sans doute entendu parler de 144 000. Là encore une fois, la Bible utilise différents styles de littérature. Ça peut être de la poésie, ça peut être quelquefois du symbolisme, mais le plus généralement, il est bon de prendre à la lettre ce qui est dit dans la Bible. S'il est parlé de 144 000 personnes... Certains disent, 144 000, c'est 12 fois 12 par 1000. 12, c'est le chiffre du gouvernement. Donc, c'est le gouvernement au carré, c'est le gouvernement parfait. Et puis, il y en a 1000 pour bonne mesure. En fait, c'est très clair. Il est question de ce même groupe au chapitre 14. On va lire ensemble aussi. Quelqu'un veut lire les versets 1 à 5 du chapitre 14. Oui.
Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas séparés de femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables.
Voilà, on va s'arrêter là. Donc, là, on apprend que ces personnes, ces 144 000 personnes, ce sont des hommes, verset 4, ils sont vierges, ils n'ont pas eu de rapport sexuel avec des femmes. Donc, ce sont des hommes vierges, et dans le... Chapitre 7, on revient au chapitre 7, verset 4, il est évident que ce sont des juifs, ce sont des fils de 140 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. Alors, l'Apocalypse, encore une fois, a été interprété à toutes les sauces, et souvent par des mouvements sectaires, des fausses religions comme les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah pensaient que quand ils ont commencé, qu'ils allaient, qu'il y aurait seulement 144 000 personnes qui allaient aller au ciel, au paradis. Et bien sûr, ils allaient en faire partie. Et puis ça a commencé au 19e siècle avec Russell. Et puis ils ont eu du succès et ils ont dépassé le nombre de 144 000. Alors là, ils ont dû changer leur interprétation, ce qu'ils font régulièrement. Mais là, on voit qu'il est question de 144 000 hommes, vierges, juifs.
Oui ? Pourquoi ce sont des juifs ? Qu'est-ce que tu as dit ?
Parce qu'ils sont des toutes les tribus des fils d'Israël, au verset 4. Chapitre 7, verset 4. Donc la prochaine fois qu'il y a, un témoin de Jéhovah qui vient, alors maintenant, leur interprétation, c'est qu'il y en aura parmi les témoins de Jéhovah qui seront dans le, en première classe. Ça sera les 144 000. Mais la prochaine fois que vous avez affaire à eux, demandez-leur de, si ils sont bien des juifs vierges, des hommes vierges et juifs. Alors peut-être que c'est des hommes, ils qualifieront. Vierges, c'est peut-être pas sûr. Et puis juifs, en général, il y a peu de juifs qui font les témoins de Jéhovah. Donc vous pouvez rapidement leur montrer avec amour. Hein. C'est pas l'idée de...
Oui, j'ai vu un comme ça, il m'a dit, regarde en haut, il est droit.
Voilà, mais c'est le danger, c'est de réagir, et moi je suis le premier coupable, parce que je déteste les mensonges qu'ils colportent avec tellement de zèle et d'énergie. Ils ont un zèle qu'on peut leur, qu'on devrait nous reprocher de ne pas avoir. Nous qui avons la vérité, eux qui, pour le mensonge, sont prêts à vendre.
Ils emportent les rues, non ?
Voilà. Alors pour eux, c'est aussi parce que, une petite parenthèse, c'est parce qu'il y a un système de mérite. Et que plus ils font ce qu'ils appellent la prédication, donc c'est des heures à taper aux portes, à donner leur littérature, plus ils ont de points. Et c'est même ridiculement... Ils sont puérils comme des gosses. J'avais un voisin qui était un ancien témoin de Jéhovah qui m'expliquait que quand il partait de Nice pour aller dans l'arrière-pays, frapper aux portes et donner de la littérature... Il y en avait parmi eux qui commençaient, s'ils avaient rendez-vous à 10h pour partir dans l'arrière-pays, il y en avait qui venaient une heure avant et qui faisaient une heure de plus dans la ville de Nice pour avoir une heure en plus.
Travailler plus pour gagner plus.
Voilà, exactement, pour être dans la première classe, quoi. Et c'est vrai qu'on peut... Eux, les Mormons, qui sont des groupes très puissants, on a le candidat républicain qui est en tête dans les sondages, c'est un Mormon. Ce sont des gens qui ont un grand sens de la famille, qui donnent la dîme de façon très, très régulière. Ils sont très riches. Ils possèdent des chaînes de radio, des chaînes de magasins, pour ceux qui connaissent les États-Unis, JCPenney, c'est une grande chaîne de magasins, c'est... Donc, voilà, alors, on revient à nos 144 000. Il est question de toutes les tribus d'Israël, des fils d'Israël. Alors, une petite question, combien il y a de tribus en Israël? Combien il y avait de tribus en Israël dans l'Ancien Testament?
12. Plus les Lévi.
Alors.
Et les demi-tribus. Mais c'était pas.
Voilà. Alors, quand on parle. Je vois que certains de vous ont déjà recherché ça. C'est toujours un peu. Ça peut nous embrouiller un peu. Un passage qu'il faut noter pour vous y retrouver, c'est toujours le chapitre dans la Genèse 35, versets 23 à 26.
Il manque une âme, non ?
Voilà, oui, on va y revenir.
23 à 26. Hein.
Alors, là, on a les... Donc, il y avait... les deux maîtresses, les deux femmes. 35, 23, 26. Ça, c'est un passage que vous devez encadrer parce que quand vous avez une question, vous pouvez revenir à là et ça vous dit les fils de Jacob étaient 12. Il y avait les fils de Léa, Ruben, premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Judas, Issachar et Zébulon. Il y avait les fils de sa femme favorite, Rachel, Joseph et Benjamin. Il y avait les fils de Bila, qui était la servante de Rachel, Dan et Naphtali. Les fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Aser. Donc là, on a 12 noms. Après, ça se complique parce que Joseph va avoir deux enfants, Éphraïm et Manassé. Et puis, suivant les endroits, les passages de la Bible, c'est toujours avec une bonne raison. On parle plus souvent des 12 tribus, mais des fois on met deux demi-tribus à la place d'une tribu, on laisse une personne en dehors, et des fois on est totalement confus. Et là, dans notre cas, Dan, la tribu de Dan n'est pas mentionnée. Il est question de la tribu, je reviens, de Manassé. Donc Manassé, c'était une demi-tribu en fait. Et puis parce que leur père Joseph avait eu Éphraïm, donc une autre demi-tribu. Et Éphraïm n'est pas là, mais on parle de Manassé et on parle de Joseph au verset 8. Donc en fait, c'est un peu comme si on désigne Éphraïm sans le nommer. Parce que si on nomme la tribu de Joseph et qu'on nomme la tribu d'Éphraïm, ça veut dire qu'en fait, quand on dit Joseph, c'est Éphraïm plus Manassé, donc on ne va pas faire deux fois Manassé. C'est une façon dont Dieu fait une petite reproche à Éphraïm. Dans Osée, le prophète Osée, on sait que c'était une nation, une tribu d'Éphraïm qui était associée avec une grande idolâtrie. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle il n'est pas nommé par son nom, Éphraïm. On l'appelle la tribu de Joseph, à côté de la tribu, de l'autre demi-tribu de Joseph, Éphraïm. Alors ça, c'est des petits détails, mais c'est pour répondre à ceux qui essayent de retrouver les listes de tribus. Et c'est une étude, alors c'est pas le sujet auquel on va s'attaquer ce soir, mais ça peut être très intéressant. Ici, la tribu de Dan n'est pas là. Certains pensent que c'est peut-être parce que Dan pourrait être la tribu de l'Antéchrist. On n'est pas sûr de ça du tout. Les gens se réfèrent à deux passages. On ne va pas aller les voir, mais vous pouvez noter Daniel 11, 37 et Jérémie 8, 16. Mais il est certain que Dan avait une tribu qui avait amené l'idolâtrie dans la nation d'Israël. Vous pouvez aller voir ça dans Genèse 49, 17, Juges 18, 30. Genèse 49, 17 et Juges 18, 30, où Dan est montré comme une tribu.
Et tout à l'heure, c'était Daniel combien ?
11, 37
et Jérémie 8, 16.
11, 37 et Jérémie 8, 16. Donc il semble et quand c'est vrai quand on va en Israël, on peut voir l'autel qui avait été construit à Dan au nord du pays. Et on voit l'autel idolâtre qui avait été construit par la tribu de Dan dans le nord du pays. Ils ont fait une reconstitution en métal. On voit un monceau de pierre. Et dessus, ils ont fait, en stylisant par du fer forgé, la forme de ces autels avec les quatre cornes. Alors, Dan est Tomi ici, mais ce qui est intéressant, c'est que dans Ézéchiel, il y a une liste des tribus dans la période du millénium, c'est dans Ézéchiel 48, 48, 2 fois 24. Et là, la première tribu qui est listée, la première tribu qui est citée dans ces tribus qui vont participer au règne de 1000 ans, c'est justement la tribu de Dan. Un peu comme si Dan était pardonné, racheté de cette omission voulue parce qu'ils avaient introduit l'idolâtrie, mais Dieu pardonne. Et tous ces gens-là étaient marqués du sceau. Alors le sceau, c'est quelque chose dont il est question dans le Nouveau Testament, notamment. On est dans 1 Corinthiens 2. Éphésiens, tout à fait. C'est combien dans Éphésiens ? Nous avons tourné. C'est Éphésiens 1, 13. En Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc là, c'est un peu le Saint-Esprit qui nous est donné comme le terme qui est utilisé pour gage ici, c'est un peu comme quand on verse des arts pour acheter une maison. Ça veut dire qu'on va acheter la maison complètement, mais au départ, c'est simplement une partie de la somme qui est versée. Et là, il nous est dit que le Saint-Esprit nous est donné en gage. C'est un peu comme si Dieu nous donne, pour commencer, le Saint-Esprit, avec tout ce que ça représente, et toute la paix, la merveille que le Saint-Esprit est. Mais c'est juste le début de toutes les bénédictions qui sont les nôtres. Et puis il y a un autre passage dans 1 Corinthiens que je ne retrouve pas. Je vous laisse le chercher. Qui donne aussi la même idée d'être scellé en Dieu. Et cette idée d'être scellé, donc c'est comme une protection. Quand une bouteille de vin est cacheté, scellé, le contenu n'est pas affecté par ce qui se passe à l'extérieur. Donc c'est une espèce de protection aussi. Et les personnes qui sont ainsi scellées par Dieu vont être capables de faire face à toutes les catastrophes de la grande tribulation. Et on a vu au chapitre 14... qu'il en est question. Donc tous les événements cataclysmiques qui vont continuer à se produire, ces 144 000 juifs mâles vierges vont pouvoir y résister. Donc ça, c'est le premier groupe que Jean voit après l'ouverture du sixième sceau, en attendant l'ouverture du septième sceau. Cette espèce de pause, et il voit deux groupes de personnes dans le ciel. D'abord plutôt sur la terre, les 144 000, et puis à partir du verset 9, après cela, je regardais, et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Et ils criaient d'une voix forte : le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des quatre êtres vivants. Ils tombèrent la face contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Alors l'un des anciens prit la parole et me dit, ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Alors, un deuxième groupe, une grande foule qu'on ne peut pas compter, qui représente des gens de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples, de toutes les langues, et ils se tiennent devant le trône et devant l'agneau. Là déjà, on peut, avec ce verset, répondre à la question de savoir que certains se posent des fois, est-ce qu'on se reconnaîtra dans le paradis, au paradis, au ciel? Ou est-ce qu'on sera tous, on aura tous le même visage, les mêmes petites ailes, la même petite harpe en dotation? Et en fait, là, il est clairement indiqué qu'on va voir reconnaître des gens de différentes races, de différentes langues. Il y aura encore des accents. Je ne sais pas quelle langue on parlera, mais de toute langue. Et ça, quelque part, ça m'encourage de savoir que Dieu respecte toujours la diversité, la personnalité de chacun. Et ça va loin, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de
ségrégation.
On n'a pas à aspirer à être différent de ce qui nous a créé. Et souvent, on aimerait bien être plus grand, avoir des cheveux plus longs. On a toujours tendance à envier quelqu'un d'autre et se dire, si j'étais comme ça, la vie serait plus facile. Mais on est tous des trésors, des chefs-d'œuvre créés par Dieu avec nos personnalités, nos physiques.
L'homme, Dieu l'a créé, l'homme et la femme, comme on l'a dit dans ton texte.
Et voilà. Il n'y a pas de. Alors après, c'est vrai que la mode, les sociétés ont des canons de beauté et on tend à vouloir se rapprocher d'un modèle. La jeune femme anorexique qui est tellement mince, qui ne peut pas manger, etc. Ça, c'est le canon de la beauté de notre époque. Il y a 200 ans, c'était au contraire la femme bien dodue qui était la belle femme. On voit que c'est tout à fait des critères pas intrinsèques du tout, c'est des critères aléatoires qui viennent des fadaises de la mode et des modes et des styles. Mais là, on va être capable de se reconnaître. C'est comme lorsque Pierre voyait sur le mont de la transfiguration Élie et Moïse. Il les avait sans doute jamais vus avant, mais il les avait reconnus et on pense qu'il n'avait pas de petit « Bonjour, je m'appelle Moïse », petite carte. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut glaner, et c'est ça aussi qui fait que quand vous lisez la parole, souvent on cherche à voir quel est le verset suivant, qu'est-ce qu'il dit, et on ne réfléchit pas un peu sur ce qui est dit ou sous-entendu par certains versets. Donc c'est cette foule bigarrée de tous les milieux, de toutes les nations, se tient devant le trône et devant l'agneau. Et ils ont des robes blanches et des palmes à la main. Et ils crient, vous l'avez appris par cœur, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Les anges et les anciens, les quatre êtres vivants, se tombèrent la face contre terre devant le trône. Alors tomber la face contre terre, c'est pas contre la terre, mais c'est le geste de se prosterner devant un roi. Et ils adorent Dieu. On va voir ce qu'ils disent. Mais la question, c'est comme on se demandait qui étaient les 144 000, la question c'est qui sont ces... qui constitue cette grande multitude ? Moi, ça me rappelle un peu la foule qui a célébré l'entrée triomphale de Jésus avec les palmes à la main en disant « Hosanna, sauve-nous, nous t'en supplions ». Alors, on peut penser, certains se disent, bah ça c'est les chrétiens, ce sont les rachetés, c'est l'Église. Mais une chose qui est intéressante, c'est que Jean ne sait pas qui ils sont déjà. Alors que Jean, l'Église, il connaissait, il avait participé à sa fondation. L'Église, on a vu qu'elle était, dans les chapitres 4 et 5, elle était symbolisée plutôt par les 24 anciens sur le trône, qui avaient 12 qui représentaient les 12 tribus, 12 qui représentaient les 12 apôtres, donc toute l'ancienne et la nouvelle alliance. Mais ici, ce sont des gens qui sont un peu différents. L'Église, vous vous souvenez, dans Apocalypse 3:10, elle est gardée de l'heure de la tentation. Ici, ils sont sortis de la grande tribulation. Donc ça ne peut pas être le même groupe. Ils portent l'Église, au chapitre 4, verset 4, on a vu qu'ils portaient des vêtements blancs. Là, ils portent des vêtements blancs, des robes blanches. L'Église est assise sur des trônes autour du trône. Ça, c'était au chapitre 4. C'était ces anciens qui étaient assis sur les 24 trônes. Là, ce groupe, cette multitude est debout devant le trône. Verset 9. Dans Apocalypse 4, 4, l'Église, on voit qu'ils avaient des couronnes. Ils déposaient devant Dieu. Là, ils n'ont pas de couronne, ils ne sont pas couronnés. L'Église, dans le chapitre 5, verset 8, on a vu qu'ils tenaient des harpes et des coupes d'or dans leurs mains. Là, c'est ce groupe, cette multitude, ils ont des palmes de palmier, des branches de palmier à la main. L'Église chantait un cantique nouveau, verset 9. Là, il crie d'une voix forte, verset 10. Il crie d'une voix forte, le salut est à notre Dieu qui est assis. On a vu plus loin que en lisant le chapitre 14 que les 144 000, eux aussi, vont chanter un cantique nouveau devant le trône. Et puis, l'Église est désignée comme un royaume et des prêtres pour Dieu. Dans le chapitre 10, pardon, verset 10 du chapitre 5, « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. » Ici, c'est cette grande multitude, verset 15, ils servent Dieu. Ils lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. Donc, ils constituent ce qu'on appelle en fait les rachetés de la grande tribulation. Je pense que c'est le même groupe que les martyrs qui sont vus à l'ouverture du sixième sceau, du cinquième sceau plutôt, verset 9 du chapitre 6. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et des témoignages rendus. Et beaucoup pensent que ces deux groupes, en fait, ne sont... Il y a une relation que les 144 000 juifs, ils vont être... ce sont des serviteurs de notre Dieu, il était dit au verset 3 du chapitre 7, et qu'eux vont justement servir Dieu en étant des témoins. Ils vont être des juifs pour Jésus, mais ils vont s'adresser à des juifs, mais aussi à toutes les nations, tous les gens qui n'auront pas encore été touchés, qui ne seront pas encore venus au Seigneur, Dieu leur donne une autre chance d'être touchés par le témoignage de ces 144 000 vierges juifs mâles. Et c'est eux qui sont les rachetés de la grande tribulation. Dieu, dans son infinie miséricorde, permet encore à d'autres personnes d'être sauvées, même s'ils ne sont pas juifs et même s'ils n'ont pas appartenu à l'Église. Et on peut penser que si l'Église est vraiment enlevée, comme on le pense avant le début de la tribulation, on a encore parlé des raisons pour lesquelles on opte pour cette option, on opte pour cette chronologie plutôt, les gens autour de nous vont se poser des questions. Où est-ce qu'ils sont passés tous les gens qui le dimanche prenaient le café au 10 avenue Aimé Martin? On a plaisanté dans le passé en disant qu'il valait mieux être sur la terrasse quand il y avait la grande tribulation pour monter plus facilement. À la limite, ici, il y a juste la verrière à franchir. Là-bas, ça sera un peu plus dangereux parce qu'il y a tous les étages.
C'est au 7 là-bas.
Voilà. Mais peu importe, ce qui compte, c'est qu'il va y avoir brutalement des tas de chrétiens qui vont disparaître à Subway. Là, ça va être la panique parce que les bons employés chrétiens ne seront plus là. On verra leur tablier par terre avec.
Et comment c'est là dans le capot, comment?
Et donc il va y avoir l'occasion de. C'est là que nos parents, nos amis, nos voisins vont dire, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'il m'a... Il m'avait donné une Bible, il m'avait donné un petit livre qui expliquait, il m'avait même donné une vidéo, je vais voir ça. Donc on peut penser qu'il va y avoir un réveil qui va mener à cette multitude sans nombre, des rachetés de la grande tribulation. Ils sont. Alors certains se disent, bon ben c'est pas la peine de s'exciter, de venir au Seigneur tout de suite, on peut continuer de s'amuser, puis quand là on saura que l'Église est partie, l'Église authentique a été enlevée, il sera toujours temps. Mais le problème, c'est que on est en droit de se demander s'il n'est pas capable de venir à Christ quand ça ne représente pas pour nous encore en Occident un coût énorme. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de le faire maintenant et qu'on pense qu'on serait plus capable de le faire quand il y aura une persécution intense et terrible? Le conseil, c'est venez à Christ tout de suite. N'attendez pas l'oral de rattrapage de la grande tribulation parce que ce sera terrible. Et on va continuer à voir qu'il... Donc c'est... Ils sont, encore une fois, ils ont des palmes à la main. Les palmes, c'était encore un signe de vénération. On agitait les palmes comme on agite aujourd'hui des drapeaux. On le voit dans les rassemblements des meetings électoraux. Ils bougent les drapeaux. Ils criaient d'une voix forte. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Ils ont été martyrisés, mais ce n'est pas parce qu'ils ont versé leur sang. Hein, on a vu qu'ils avaient été égorgés au verset 9 du chapitre 6. Ils avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et des témoignages rendus. Ce n'est pas parce qu'ils ont versé leur sang qu'ils sont sauvés. Encore une fois, c'est parce que l'agneau est mort, a été immolé. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Ça, c'est encore un paradoxe. Des robes qui deviennent blanches quand on les trempe dans du sang, c'est presque un gag à la Coluche. Ça lave plus blanc que blanc. Mais c'est vrai que le sang de Jésus, il lave plus blanc que blanc. Et ça me rappelle, j'avais un ami à l'école biblique qui avait une petite présentation avec des produits chimiques qui était assez saisissante. Il prenait un liquide qui était une fiole qui était remplie d'un liquide noir, et puis il avait un autre liquide, un autre fiole qui était remplie d'un liquide rouge vif, et il versait le rouge vif dans le noir, dans le liquide noir, Et la réaction chimique faisait que le liquide noir devenait limpide et clair et transparent. Et on peut retrouver encore sur Internet les formules et faire le tour. Mais chaque fois qu'il faisait ce tour, il était bouleversé, il avait les larmes qui lui venaient aux yeux, parce qu'il expliquait que c'était en fait le salut de Dieu. Le sang de l'agneau qui versait sur la noirceur de notre péché nous permettait d'être pur et limpide devant Dieu. Et encore une fois, ils sont sauvés pas parce qu'ils ont versé leur sang, mais grâce au sang de l'agneau. On est tous sauvés par ce sang de l'agneau. Même dans l'ancienne alliance, avant que Jésus ait versé son sang, Abraham, il était sauvé à crédit par le sang de l'agneau. Il avait mis sa foi dans le Messie qui allait venir. Il ne savait pas exactement comment ça allait se passer. Il avait peut-être eu une idée lorsque la main avait été retenue, lorsqu'il voulait sacrifier son fils sur le mont Moria. Mais il n'y a qu'une façon d'être sauvé, c'est par Jésus-Christ, parce qu'il a versé son sang, d'accepter son sacrifice. Voilà, on va peut-être prendre une petite pause. Oui.
Encore pour le faire, c'est la fin 18. En fait, ça veut dire maintenant que pendant la grande tribulation, il sera encore quelques gens qui soient sauvés.
Je pense à la lumière de ces passages qu'on peut penser que oui. Mais
l'évangélisation, c'est un moment.
Et les 144 000, on le verra, il va y avoir des passages qui nous précisent qu'il va y avoir une grande évangélisation. Et les gens vont écouter encore plus, vont écouter cette fois.
Et
je crois.
Ils vont écouter qui ?
Les 144 000, les Juifs qui ont été. Et là, ça rejoint encore tout le. Dans Romains, on l'avait vu l'an dernier pour ceux qui étaient là, mais je sais que beaucoup n'étaient pas là. Les chapitres 9, 10, 11, on voit que Dieu n'en a pas fini avec son peuple. Et que son peuple, justement, même s'il est résistant, il va venir un moment où ils vont avoir un grand réveil parmi les Juifs qui vont reconnaître en Jésus leur Messie.
Donc les Juifs, ils vont prendre place de nous pour évangéliser.
Oui. D'après ce passage, et on verra, il y a d'autres passages qui montrent l'évangélisation qui prend place sur la terre, et que l'Église, nous voyons avec Jean depuis le ciel, il vaut mieux être pour mieux évangéliser maintenant, c'est moins dur qu'à ce moment-là. Faisons une petite pause. On reprend. J'ai parlé avec quelques-uns qui m'ont rappelé, il y a un très bon passage aussi sur les tribus, c'est lorsqu'il y a les bénédictions à la fin de la Genèse, de voir un peu qui est béni, comment les différents fils de Jacob sont bénis par leur père. Il y a aussi des tas de sources d'informations sur ce qui se passe dans les différentes tribus. Ça, c'est une première remarque. Après, j'ai retrouvé le passage que je ne trouvais pas, parce que c'est dans 2 Corinthiens 1, 21, 22. Je vais lire. Donc ça, c'est un peu des compléments de ce qu'on a vu déjà. 2 Corinthiens 1, 19. « Car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. » Toutes les promesses de Dieu sont ce « oui » en lui. C'est donc aussi par lui que nous disons à Dieu l'amen pour sa gloire. Celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu. Et il nous a aussi marqué de son sceau et il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Donc, c'est un passage de Paul, encore une fois. On avait cité Éphésiens 1, 13.
Oui.
Éphésiens 4, 30, on peut le relire aussi. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Est-ce que vous saviez que Jésus lui-même était scellé, avait reçu le sceau? C'est dans Jean 6, 27. Travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. On n'est pas certain de ce que c'est que ce sceau, mais ce sceau se trouve sur le front des serviteurs de Dieu. Dans le chapitre 14 qu'on avait lu tout à l'heure, le début qui parlait des 144 000, le verset 1 disait « Je regardais, voici l'agneau debout sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. » Donc d'une façon ou d'une autre, il y a une évocation du nom de Dieu, de Jésus aussi, sur le front de ces hommes qui ont été scellés. Nous nous sommes scellés par l'Esprit Saint. Et cette idée d'être protégé par ce sceau, ça se retrouve dans la Pâque, en fait, puisque vous vous souvenez que le sang qu'ils mettaient sur leur porte, c'était un signe que le jugement était déjà passé. Et là, quelque part, c'est un signe de reconnaissance pour dire que celui-là, il ne faut pas lui taper dessus, il ne faut pas lui laisser tomber la cata dessus, parce que il a le nom de Jésus, il est au bénéfice du sacrifice. Jésus, lui, a reçu déjà toute la calamité, tout le cataclysme qu'on peut imaginer en étant sur la croix, séparé de son Père, avec qui il avait été ensemble toute éternité, et qui a porté tous les péchés, passés, présents, futurs, de toute l'humanité. Les choses les plus horribles, encore une fois, ça dépasse l'entendement. Mais il est devenu péché, il est même dit, pour que nous soyons sauvés. Qu'est-ce que font cette grande multitude? On a vu qu'ils lui rendaient un culte jour et nuit dans le temple, qu'ils l'adorent. On a vu qu'ils criaient « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau ». Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. C'est une belle image de l'intimité que Dieu veut avoir avec chacun de nous, quoi. En même temps, il s'adresse à des multitudes, mais il est prêt à mettre une tente synonyme d'intimité ou de favoritisme ou d'attention particulière. Et puis il y a cette merveilleuse promesse qui vient du prophète Ésaïe. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne frappera plus, ni aucune chaleur. L'agneau qui est au milieu du trône, l'agneau est aussi un berger. C'est encore un de ces paradoxes bibliques. Le mouton est aussi le berger. L'agneau nous fera paître ces gens. Il les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Ça, c'est un passage qu'on lit souvent dans les moments de grand deuil, dans les moments d'enterrement. Le fait que Dieu essuie toutes les larmes, mais il est bon de noter que ça, c'est dans le ciel. Les larmes ici-bas, malheureusement, c'est notre humanité, c'est notre destinée, j'allais dire, on peut pas y échapper. Le chagrin, la mort, le péché, tout ça sont des sources de douleur, mais on a cette assurance que il va tendrement, comme une maman qui essuie les larmes d'un enfant, l'agneau va prendre soin de ces personnes. On va commencer juste le début du chapitre 8. On va revoir peut-être un peu avec Tonio, je crois qu'on va. Il va la semaine prochaine, tu feras la fin du chapitre 8 et le chapitre 9. D'accord. Alors c'est l'ouverture du septième sceau. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données. Et un autre ange vint se placer sur l'autel. Il tenait un encensoir d'or pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or devant le trône. La fumée des parfums monta avec la prière des saints de la main de l'ange devant Dieu. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des tonnerres, des voix et des éclairs et un tremblement de terre. Et les sept anges qui tenaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. Vous avez vu peut-être pour certains le feu d'artifice au carnaval, il y a quelques jours là. C'est souvent le plus beau, mais ce qui est remarquable, c'est les fusées qui montent, qui éclatent très haut et qui retombent, et on pense que c'est la fin, et puis là, ça, les petits bouts qui retombent éclatent à nouveau à leur tour, et il y a une espèce d'effet de cascade, et c'est un peu ce qui se passe avec les sceaux, les trompettes et les coupes, qui vont, les sept coupes, les sept sceaux, les sept trompettes, les sept coupes ou sept bols. Encore une fois, je crois que Tony avait précisé qu'on n'était pas nécessairement dans une note de chronologie stricte. Mais là, à partir de ce septième sceau, ça va être maintenant les sept trompettes qui vont commencer des cataclysmes sur la terre. Les premières trompettes, là vous verrez la semaine prochaine, c'est assez impressionnant. Quand on met ça en termes de géographie actuelle, de penser à ce que ça représente.
Mais les Romains utilisaient ça avant aussi, hein. Les Romains avaient utilisé des trompettes aussi.
Oui.
Il y a eu des primes, c'est vrai que.
Il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Est-ce que c'est long, une demi-heure de silence ?
Mais à mon avis, c'est pas le même temps.
Ouais. Mmh. Je crois que c'est. Tout dépend un peu de qu'est-ce qu'on attend. Si vous êtes seul, vous travaillez chez vous, vous faites du travail, vous préparez une étude, vous corrigez des devoirs, une demi-heure sans rien dire, c'est pas long. Mais si vous attendez à ce qu'il y ait du bruit, et là dans le ciel, on a vu qu'il y a souvent du bruit, de la louange. Si par exemple je m'arrêtais de parler pendant une demi-heure là devant vous, vous resteriez sans doute pas une demi-heure. Et il y a cette en fonction de ce qu'on attend, mais là c'est quelque chose qui impressionne.
Le silence dans le stade, c'est déjà impressionnant.
Tout à fait, oui. Parce qu'on a justement, on attend le cri, le vacarme, les trompettes, etc. Et là c'est une demi-heure de silence. Alors je ne partage pas cette opinion, mais il y a certains qui disent que justement ce verset, c'est la preuve qu'il n'y aurait pas de femme dans le ciel. Mais si on vous dit ça, vous pouvez dire qu'il ne doit pas y avoir d'homme au paradis, parce qu'il est dit qu'il n'y aura plus de chagrin dans le ciel. Donc ça, c'est. Je ne partage pas du tout ces opinions. Je ne fais que rapporter des mauvaises blagues. Pardon. Je vis sept anges qui se tiennent devant Dieu, sept trompettes leur furent données, et il y a un ange qui vient et on lui donne un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or devant le trône. Donc il y a cette idée qu'on retrouve ici, mais qu'on retrouve dans d'autres passages de la Bible, où les prières des saints, les prières que vous et moi qui sommes sauvés, c'est pour ça qu'on est saints, c'est pas parce qu'on est des gens super spirituels, mais ces prières, pour Dieu, c'est comme un parfum de bonne odeur. C'est comme du fragonard ou du molinard ou du. Qu'est-ce qu'il y a ? Cacharelle, guerlain.
Le saint Laurent.
Et le plus cher, c'est quoi ? Le saint de Chanal. Chanel. Chanel.
Chanel.
Voilà, d'accord. Donc c'est pour dire, ça c'est, on peut plaisanter, mais en fait c'est pour rappeler l'importance de la prière. Souvent on a l'impression qu'on prie sur terre pour changer les choses dans le ciel. En fait, c'est la prière, c'est pour que le ciel nous transforme. C'est pour que Dieu nous parle plus que pour nous, on parle à Dieu. Mais dans cette communication, Dieu a accès à notre âme, à notre esprit, et il peut vraiment agir dans nos vies. Et ça, c'est la prière des saints. Je crois que c'est le passage qui est au-dessus de la cuisine. C'est quel verset? Tu vas aller voir. C'est quel verset? Parce qu'il y a plusieurs.
C'est la porte de la cuisine, oui. C'est ce verset 4.
C'est le 4 là. La fumée des parfums monta avec la prière des saints de la main de l'ange devant Dieu.
Oui, c'est
d'accord.
Ça, oui.
Très bien. C'est pour voir si vous êtes observateur. Après, je ne me rappelle plus si c'était celui-là ou pas. Honnêtement, voilà. Et donc.
C'est généralement plus long le dos et plus long.
Et voilà, voilà, moi je vois. Je vois les cartes du monde. Et là, ça va déclencher une série de. D'abord, il prend l'encensoir. Donc, on met des résines odorantes sur l'encensoir, qui est une pièce pour le métal, pour ceux qui n'ont pas été catholiques, qui n'ont pas vu des encensoirs. Bling, bling. On met des charbons ardents. Et puis on met des résines dessus qui fument et qui produisent un parfum, souvent un peu fort, le parfum des encensoirs dans l'église catholique. Mais les prières font partie de ça. Par contre, l'ange va prendre l'encensoir, il le remplit du feu de l'autel et il le jette sur la terre. Et là, c'est le déclenchement des sept trompettes. Et autant ce qui montait vers Dieu était agréable et de bonne odeur, là c'est ce qui est jeté sur la terre, les tonnerres, les voix, les éclairs, le tremblement de terre, c'est encore une vision de ce qu'on appelle des choses apocalyptiques. Voilà, je vais vous laisser là. Donc là on verra les, encore une fois il va y avoir six premières trompette, comme il y avait eu six premiers sauts et puis une pause, et ces pauses c'est un peu des pauses de miséricorde de Dieu. Même dans sa justice, Dieu ne veut pas, il est dit dans Ézéchiel que pour lui punir les hommes c'est une tâche étrange, c'est contraire à sa nature. Il aime tous les hommes et il voudrait pouvoir recevoir tous les hommes auprès de lui, être ce père qu'il aspire à être, mais il a le fait qu'il est parfaitement saint, parfaitement juste, il doit aussi juger, d'où cette période de la grande tribulation. Mais là encore, dans ces moments de, on va voir que il va y avoir une pause après la sixième trompette, avant, et de la même façon pour la sixième, après la sixième coupe, il va y avoir encore une pause. Donc on avance progressivement dans cette partie des choses après. Vous vous souvenez du plan du livre, raconte ce que tu as vu, la vision de Christ, ce que tu vois, les sept églises, et après ces choses, ce qui va se passer. On vient de terminer à travers la salle du trône, où l'église a été enlevée. On a vu deux groupes, les 144 000, encore une fois, sont des juifs vierges, et sont des hommes, qui viennent donc tout un tas de tribus, et qui vont évangéliser et produire sans doute cette grande multitude de personnes rachetées, les rachetées de la grande tribulation, comme on les appelle parfois. Et le septième sceau étant ouvert, ça va déclencher la série des sept trompettes comme un effet de cascade qui va encore continuer. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur ces passages? Oui.
Le cascade et tout ça, le prière de saint, c'est son cœur saint.
Alors, les saints, ce sont ceux qui sont encore sur la terre, donc ça doit être ces grands les rachetés de la grande tribulation qui sont encore sur la terre, alors que l'Église est déjà dans le ciel.
Mais est-ce que pas tout le monde, tout le croyant, ils sont le saint?
Alors oui, en fait, c'était précisé ça, le mot saint, ça veut dire simplement des gens mis à part, ce sont les gens qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur. Un saint, c'est pas quelqu'un de particulièrement spirituel. Tu es une sainte comme Sainte Rita, ou mieux que Sainte Rita, parce qu'on n'est pas sûr que Sainte Rita était sauvée. Mais c'est ça, oui. Et souvent, avec la vision catholique des choses, on pense que ce sont certaines chrétiens, certaines personnes méritantes qui ont droit à ce titre, comme le pape Jean 22, 23, 24, moi, il s'appelait Paul.
Jean-Paul 42.
42, voilà.
Non, Jean-Paul II.
Santo subito, on voulait qu'il soit saint tout de suite. On voulait, l'Église catholique, c'est elle fait de ces saints des intermédiaires entre les croyants et Dieu. Alors qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre les hommes et Dieu, l'homme de Dieu, Christ Jésus. Voilà. D'autres questions?
Je n'ai pas compris la réponse finale. Est-ce que maintenant c'est ça aussi les prières de nous ou que des gens qui sont encore sur la terre qui prient dans ce moment-là?
Qui sont ces saints?
Qui sont ces saints? On peut penser, parce que la fumée des parfums, des prières montent, on peut penser que c'est parce qu'ils sont encore sur terre, donc ça serait les saints de la grande tribulation. Parce que nous, on va déjà être aussi.
Ça pourrait le fait que c'est des saints, que c'est sur l'autel d'or devant le trône.
Ça pourrait être aussi, oui.
Aux saints, oui. Qui sont dans le chapitre 6.
Oui.
Oui.
Qui priaient jusqu'à quand?
Oui,
tout à fait. Tu as vengé. Et ça peut être une réponse que Dieu dit, bon, maintenant, voilà, ça monte, et puis maintenant, le jugement tombe sur la table.
Oui, tout à fait.
Je ne veux pas dire d'artifice, mais moi, je te dis que c'est nous qui le faisons dans la mer. Parce que tout ça, quand les feux d'artifice s'approchent dans le ciel, il y a quelque chose qui tombe. Et ça, c'est peu boulet. Parce que ça m'arrivait là-bas au Nicaragua, au fait des possessions. Un jour, j'étais en possession, il y a un truc qui m'a tombé là. Il m'a fait mal sur la peau. Voilà.
Ça va. On en reparlera, parce que, surtout avec les chapitres 8. Il y a la pollution de la terre, c'est souvent un problème que les chrétiens se posent. Comment est-ce que Dieu peut laisser des cataclysmes pratiquement détruire la terre? Et une bonne réponse, c'est que de dire que, en fait, les hommes qui refusent Dieu, ils font de la création de Dieu, au lieu du Créateur, un sujet d'adoration. Et on le voit dans tous les mouvements de Greenpeace et tout ça, ils se moquent de Dieu. Par contre, la création est devenue leur Dieu. Et en plus, Dieu, alors ça ne veut pas dire qu'on doit, en tant que chrétien, on doit avoir une attitude responsable, on ne doit pas jeter n'importe comment, mais on ne doit pas adorer la création. D'autant que Dieu va nous montrer qu'il va recréer quelque chose d'encore mieux en
peu de temps.
Anne, d'autres questions?
Non, pas là.
Pas là? Je peux te demander de terminer par une prière, s'il te plaît.
Seigneur, je te dis merci pour ce temps que tu nous donnes de passer dans ta parole, Seigneur. Et
Seigneur, merci de multiplier ces temps, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que ce qu'on y lit nous montre, Seigneur, qu'il n'y a vraiment rien de plus important que de se tourner vers toi et d'apprendre à te connaître. Et merci pour ces enseignements. Merci, Seigneur, pour Pierre et ce qui nous donne à réfléchir, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, je te prie que cette parole, Seigneur, continue à nous nourrir, Seigneur, qu'elle continue à nous faire grandir, qu'elle continue, Seigneur, à nous rapprocher de toi, Seigneur, mon Dieu, et que chacun puisse vraiment retourner chez lui ce soir avec quelque chose en plus, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu. Amen.
Amen. Merci. Amen.